de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir, chers auditeurs et auditeurs. Comment allez-vous? Vous êtes avec moi, Audrey. Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français de la Voix de l'Indonésie de la Radio République Indonésia, diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, pour le moment de fin d'année, nous allons vous présenter un programme spécial de Kaléidoscope Général et un certain nombre de programmes tels que le magazine culturel, Apprendre l'Indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le Kaléidoscope Général. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
La Voix d'Indonésie présente le Kaléidoscope 2020. Nous présentons des événements importants de janvier à juin 2020. L'an 2020 en Indonésie est commencé par des inondations massives dans les régions de DKI Jakarta, l'ouest de Java et Banten. Non seulement des inondations, mais des glissements de terrain ont également été signalés dans les régions de Bogor, l'ouest de Java et Lebak, Banten. À cause de ces inondations et de ces glissements de terrain, plus de 60 personnes auraient été tuées. La catastrophe sur Gunung Pluto cette année a également réussi à attirer l'attention du monde. Cité de Kompas.com, un certain nombre de médias internationaux tels que South China Morning Post, CNN et The Guardian auraient également rapporté les inondations survenues dans la région de Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang et Bekasi, Jabodetabek. Le début de l'année a également été marqué par la propagation du nouveau virus corona SARS-CoV-2 de Wuhan en Chine vers d'autres pays. Le 15 janvier, le ministre indonésien de la Santé, Terawan Agus Putranto, a déclaré à Jakarta que le gouvernement indonésien avait pris les mesures nécessaires pour anticiper l'entrée du virus de la pneumonie lourde de Chine en Indonésie. Cette anticipation est réalisée en augmentant la sécurité aux entrées à la fois à l'aéroport et au port. Terawan a déclaré que sa parti avait déjà des procédures de standard opérationnel pour anticiper l'entrée de ce virus en Indonésie.
Kita sudah mulai gerakkan untuk kewaspadaan itu. Semua pintu-pintu masuk bandara, baik bandara maupun.
Nous avons commencé le mouvement pour la vigilance. Toutes les entrées, les aéroports et les ports de mer sont toutes prêtes. Ils utilisent des thermoscans, des détecteurs et ainsi de suite. En particulier pour anticiper l'entrée du virus qui ne fait que se propager à Wuhan et maintenant il y en a à nouveau en Thaïlande, Bangkok. Le gouvernement a déjà été vigilant et a fait des répétitions et anticipe que s'il y a un incident, ce qui doit être fait, toutes les parties tiennent les procédures de standard opérationnel SOP. En outre, le ministre de la Santé, Terawan Agus Putranto, a expliqué que sa partie est également préparée un certain nombre d'hôpitaux si le virus en provenance de Chine est détecté dans le pays. Le 24 janvier, l'Indonésie a accueilli le Forum Eurasia Centriste Démocrate International, CDI, qui s'est tenu dans la région spéciale de Yogyakarta. Plus de 100 partis politiques européens et asiatiques de haute rang ont participé à l'événement sur le thème « Eurasia, la nouvelle base de la géopolitique et de l'économie du 21e siècle ». Lors de l'événement qui était ouvert par le vice-président de la République d'Indonésie, Ma'ruf Amin, l'Indonésie était reconnue comme un pays plein de tolérance. comme l'a déclaré le secrétaire général du Centre Christ-Démocrate International, CDI, Antonio Lopez.
Indonesia has long been considered the exemplar of tolerance. 87% of its...
L'Indonésie a longtemps été considérée comme un exemple de tolérance. 47% de chaque 260 millions, ce qui fait de l'Indonésie le plus grand pays musulman et le troisième plus grand démocrate au monde. Ce grand pays est protégé par la Constitution comme une longue tradition de pluralisme religieux. Le 31 janvier, le gouvernement des États-Unis, par l'intermédiaire de son ministre de la Défense, a décerné de Medaille de Legion of Merit, Degree of Commander, au chef d'état-major indonésien, le général TNI Andika Perkasa. Le gouvernement américain considère que le général Andika Perkasa a contribué au renforcement des relations entre l'armée nationale indonésienne, TNI, et l'armée américaine. Le chef d'état-major de l'armée américaine, le général James C. McConville, a remis la médaille à Andika lors d'une cérémonie d'accueil spécial à Whipple Field à Arlington aux États-Unis. Nous passons maintenant au mois de février. À la suite de l'épidémie de nouveau virus corona à Wuhan en Chine, le 2 février, 243 citoyens indonésiens ont été rapatriés de Wuhan. Ils ont été transportés par avion Batik Air et ont atterri à l'aéroport de Hang Nadim à Batam. En outre, trois avions appartenant à l'armée de l'air indonésienne ont transporté tous les citoyens indonésiens sur l'île de Natuna. Ils subissent des procédures de quarantaine. Après avoir été déclarés en bonne santé, tous les citoyens indonésiens qui sont mis en quarantaine à Natuna ont été renvoyés dans leur ville d'origine le 15 février. Les 9 et 10 février, le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo ou Jokowi, a effectué une visite d'État en Australie. Le résultat concret de la visite a été une signature du partenariat stratégique global de POA 2020-2024 et du protocole d'accord sur la coopération en matière de sécurité des transports. Le président a demandé l'engagement de l'Australie à aider à renforcer les capacités des micro, petites et moyennes entreprises MPME d'Indonésie, augmenter les visites de missions commerciales en Indonésie, une augmentation de quota de visa vacances-travail pour les citoyens indonésiens, la politique de visa pour les citoyens indonésiens qui se rendront en Australie et l'inauguration de l'initiative annuelle de la table ronde des PDG. Au milieu de l'épidémie de COVID-19 en Chine, le 11 février soir, le président chinois Xi Jinping a téléphoné le président indonésien Joko Widodo. À cette occasion, le président Joko Widodo a exprimé ses condoléances aux victimes de virus corona en Chine. Il a également déclaré que l'Indonésie serait toujours aux côtés de la République populaire de Chine en ces temps difficiles. Par ailleurs, le président Xi Jinping a exprimé sa reconnaissance pour la confiance et la compréhension accordée à la Chine par l'Indonésie. M. Xi a déclaré que l'Indonésie était un partenaire stratégique global. Xi a également déclaré que les amis sont ceux qui sont là lorsque d'autres amis en ont besoin. Cela aussi a été illustré par l'Indonésie.
Passons à mars. Le 1er mars, le président afghan, Ashraf Ghani, a décerné au ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, l'étoile d'honneur Malalai lors d'une visite de travail à Kaboul, en Afghanistan. L'étoile d'honneur Malalai est l'une des plus hautes récompenses décernées par le gouvernement afghan à des personnalités afghanes et internationales qui ont apporté des contributions exceptionnelles à l'Afghanistan. Le 2 mars, le président Joko Widodo au Palais Merdeka a annoncé les deux premiers cas positifs de virus corona COVID-19 en Indonésie. Le chef d'État a souligné que le gouvernement indonésien dispose d'une préparation et d'un équipement adéquat pour faire face à la propagation du virus corona. Il a également formé une équipe conjointe de l'Armée nationale d'Indonésie et de la police de la République d'Indonésie, TNI Polri, et civile pour effectuer la manutention sur le terrain. Le gouvernement garantit également la disponibilité d'un budget pour le traitement, la manipulation et la prévention afin que le virus corona ne se propage pas. Du 10 au 13 mars, à l'invitation du président Joko Widodo, le roi néerlandais Willem Alexander et la reine Maxima ont effectué une visite d'État en Indonésie. Ils ont visité Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan et Sumatra. Le 10 mars, le roi Willem, dans un communiqué de presse conjoint au Palais Bogor, a présenté ses excuses pour les violences perpétrées par le Néerlandais contre l'Indonésie qui ont effectivement eu lieu alors que l'Indonésie était déjà indépendante. En réponse à cela, le président Joko Widodo a également déclaré que les deux pays ne peuvent pas effacer l'histoire passée, mais peuvent tirer des leçons.
Saya ingin menyampaikan bahwa kita tentu tidak dapat menghapus sejarah.
Je voudrais dire que nous ne pouvons certainement pas effacer l'histoire, mais que nous pouvons apprendre du passé. Nous tirons cette leçon d'histoire pour renforcer notre engagement à construire une relation égale, respectueuse et mutuellement avantageuse. Le roi Willem et la reine Maxima sont venus en Indonésie avec des centaines d'hommes d'affaires et plusieurs ministres pour discuter de la coopération entre les deux pays. Les délégations des deux pays sont convenues de renforcer la coopération économique et la mise en valeur des ressources humaines. Le 13 mars, le gouvernement indonésien a formé un groupe de travail pour l'accélération de la gestion du COVID-19 afin de coordonner les activités inter-institutions dans le but de prévenir et d'atténuer les effets de la nouvelle maladie à coronavirus en Indonésie. Ce groupe de travail est sous et directement responsable devant le président. Ce groupe de travail relève de l'Agence nationale de gestion des catastrophes impliquant des ministères, des agences et d'autres unités gouvernementales telles que le ministère de la Santé, la police nationale indonésienne, l'armée nationale indonésienne et les gouvernements locaux. Ce groupe de travail a été formé non seulement au niveau national, mais également au niveau des provinces et des régions et villes. Le chef de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, Doni Monardo, a été nommé directeur général du groupe de travail, tandis que le ministre de la coordination du développement humain et de la culture, Muhajir Effendi, a été nommé chef du comité de pilotage. Le nombre de cas positifs d'infection au COVID-19 continue d'augmenter. Le 15 mars, le président Joko Widodo, lors d'une conférence de presse au Palais Bogor, a appelé le public à travailler, étudier et prier chez lui pour empêcher la propagation du virus corona en Indonésie. Cependant, le président a souligné que la population ne paniquerait pas face à cette situation. Le 24 mars, lors d'une réunion limitée par vidéoconférence sur l'examen national, le président Joko Widodo a décidé d'éliminer l'examen national pour les écoles des niveaux primaire, secondaire et les lycées. Cette décision fait partie du système de réponse à l'épidémie de COVID-19, dont l'un consiste à donner la priorité à la sécurité sanitaire du peuple. Le 31 mars 2020, le président Joko Widodo a signé le règlement gouvernemental numéro 21 l'an 2020 qui réglemente les restrictions sociales à grande échelle au PSBB en réponse au COVID-19. Cette réglementation permet aux gouvernements locaux de restreindre la circulation des personnes et des biens dans et hors de leur zone respective, à condition d'avoir obtenu l'autorisation du ministère de la Santé. Le règlement stipule également que les restrictions aux activités exercées comprennent au moins les vacances scolaires et de travail, les restrictions aux activités religieuses et ou les restrictions aux activités dans les lieux ou installations publiques. Dans le même temps, le décret présidentiel numéro 11 l'an 2020 a également été signé, déclarant la pandémie COVID-19 catastrophe nationale. L'élaboration de ces deux règlements est basée sur la loi numéro 6 l'an 2018 en ce qui concerne la quarantaine sanitaire qui réglemente les dispositions de base des restrictions sociales à grande échelle. Passons à avril. Le 9 avril, la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré lors d'une conférence de presse virtuelle que l'Indonésie coopérait avec au moins 9 pays pour assurer un approvisionnement fluide en équipement médical afin d'accélérer le traitement du COVID-19, à savoir la Chine, le Japon, les États-Unis, Singapour, le Vietnam, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les Émirats Arabes Unis. L'aide fournie par les 9 pays a la valeur de 77,49 millions de dollars américains. En outre, l'Indonésie a également reçu le soutien de diverses organisations, entités internationales, à savoir l'OMS, la BAD, l'AIEA, le PNUD, l'OIM, le Fonds mondial et l'UNICEF. L'Indonésie a également enregistré 42 aides de sociétés privées et d'organisations non gouvernementales de Chine, de Singapour, de Corée du Sud, du Vietnam, de France, de Russie, d'Allemagne, du Japon et de Suède. Selon Retno Marsudi, les aides les plus reçues sont les masques, les kits de tests rapides et les équipements de protection individuelle EPI. Le 23 avril, la Banque asiatique de développement BAD a approuvé un financement de 1,5 milliard de dollars américains pour soutenir les efforts du gouvernement indonésien pour atténuer l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la santé publique, les moyens de subsistance et l'économie. Le président de la BAD, Masatsugu Asakawa, a déclaré que le COVID-19 avait de graves conséquences sanitaires, sociales et économiques pour l'Indonésie, de sorte que la BAD a soutenu le gouvernement à travers ce financement, en particulier pour les groupes pauvres et vulnérables, y compris les femmes. Masatsugu Asakawa a salué la réponse du gouvernement à la pandémie, notamment des politiques économiques et fiscales fortes et bien coordonnées. Le 24 avril, un mois avant l'Eid al-Fitr, le gouvernement indonésien a officiellement interdit aux activités de rentrer chez eux dans leur ville natale, ce que les gens font généralement avant l'Eid. Le règlement a été publié pour empêcher la propagation du COVID-19. Le ministre de la Coordination des Affaires Maritimes et de l'Investissement Luhut Panjaitan, qui à l'époque était ministre des Transports intérimaires, a déclaré que l'interdiction de rentrer chez soi pendant le Ramadan 1441 Hijriah et l'Eid al-Fitri s'applique dans les régions Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang et Bekasi, Jabodetabek et les zones qui ont été déterminées à traiter les restrictions sociales à grande échelle et également des zones qui sont incluses dans la zone rouge du COVID-19.
Le 4 mai, le président Joko Widodo a assisté au sommet du mouvement des non-alignés depuis le palais présidentiel de Bogor à l'ouest de Java. Le sommet du mouvement des pays non-alignés s'est tenu sous la présidence Azerbaïdjan et a participé par 39 pays du mouvement des pays non alignés. Le thème du sommet du mouvement des pays non alignés est Unité contre COVID-19. Il a été également participé par le secrétaire général des Nations Unies, le directeur général de l'OMS et le président du comité de l'Union africaine. Le ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, après avoir accompagné le président, a déclaré que le président Joko Widodo a rappelé au pays du mouvement des pays non alignés de concentrer leur énergie et leur temps pour faire face à la pandémie de COVID-19. En outre, le président Joko Widodo a également souligné l'importance du renforcement des partenariats mondiaux pour les pays en développement. Selon Retno Marsudi, le président a souligné l'importance de respecter les engagements d'aide du développement et d'aide humanitaire, y compris l'allègement de la dette.
Kewajiban pembayaran hutang negara berkembang bisa dialihkan ke pembiayaan untuk penanganan COVID-19 atau disebut.
Le président Joko Widodo a exprimé l'importance de la solidarité mondiale et du partenariat pour faire face à la pandémie COVID-19. Les obligations du paiement de la dette dans les pays en développement peuvent être transférées au financement pour le traitement de COVID-19 ou ce que l'on appelle un échange de dette contre COVID-19 auprès des créanciers officiels. Il est important de la transmettre parce que de nombreux pays en développement, notamment les pays les moins avancés, ont des difficultés à faire face au COVID-19. Le 8 mai, l'ambassadeur de l'Union européenne auprès de l'ASEAN, Igor Drisman, a lancé le rapport 2020 sur la coopération de l'Union européenne et l'ASEAN du Livre bleu à Jakarta. Le Livre bleu est une publication annuelle sur la coopération entre l'Union européenne et l'ASEAN. Cette année, le Livre bleu sur le thème « Partenaires naturels » reflète la coopération de l'Union européenne et de l'ASEAN couvrant les questions de l'intégration commerciale et économique, de connectivité, de dialogue politique et d'atténuation du changement climatique et de l'environnement. Dans ses remarques, Igor Drisman a souligné les conditions mondiales affectées par la pandémie du virus corona. Selon lui, à l'avenir, le programme de coopération entre l'Union européenne et l'ASEAN sera davantage axé sur les efforts pour répondre à la pandémie. Auparavant, l'Union européenne avait distribué une aide d'un montant de 350 millions d'euros pour soutenir les efforts de lutte contre la pandémie par l'ASEAN.
Of course, today we all have on our minds the coronavirus.
Aujourd'hui, nous ressentons l'impact du virus corona et nous avons décidé de travailler ensemble le 20 mars où le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Santé ont discuté des efforts conjoints pour lutter contre le virus corona de manière vitale. Pour nous, c'est la résistance internationale, la solidarité internationale, l'intégrité internationale et la coopération internationale sont les clés de la lutte contre le virus corona. Pas pour le progrès intérêt, mais pour l'aide mutuelle. Par conséquent, nos efforts ne manqueront pas de se sauver mutuellement. Les délégations des pays membres de la Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie et le Pacifique, ou UNESCAP, ont approuvé un projet de résolution sur l'initiative de l'Indonésie intitulé « Promouvoir la coopération économique, sociale et environnementale sur les océans pour le développement durable » à la 76e session de la Commission de UNCESAP à Bangkok. La résolution proposée par le gouvernement indonésien reflète l'engagement de l'Indonésie et devrait encourager la coopération dans la région Asie-Pacifique en matière de la gestion marine durable. La réunion a également adopté par consensus une résolution intitulée « Coopération régionale pour faire face aux effets socio-économiques des pandémies et des crises en Asie et dans le Pacifique ». Au cours de la réunion, la délégation indonésienne a également exprimé le ferme engagement du gouvernement indonésien à faire face et surmonter l'impact de la pandémie du COVID-19, y compris diverses initiatives indonésiennes dans divers forums régionaux et internationaux en tant qu'effort d'atténuation pendant la pandémie et encourageant la coopération et la solidarité entre les pays membres de UNCESAP. Le 3 juin, le ministère indonésien des religions a annoncé l'annulation du départ des pèlerins pour le pèlerinage du Hajj 1441 Hijriah ou 2020. Cette politique a été adoptée parce que le gouvernement doit donner la priorité à la sécurité de la congrégation au milieu de la pandémie COVID-19 inachevée. Le ministre indonésien de la religion, Fahrul Razi, lors d'une téléconférence avec les médias, a souligné que cette décision avait fait l'objet d'une étude approfondie.
Pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 ini.
Le gouvernement a décidé de ne pas envoyer le pèlerin en 1441 Hijriah ou cette année 2020. Le transmet cette décision à travers le décret du ministre de la Religion de la République d'Indonésie numéro 494 de 2020 concernant l'annulation du départ des pèlerins du Hajj pour la mise en œuvre du Hajj en 1441 Hijriah, conformément au mandat de la loi, outre les exigences en matière de capacité économique et physique, la santé, la sûreté et la sécurité des pèlerins doivent être garanties et prioritaires depuis l'embarquement ou le débarquement pendant les voyages ainsi que pendant leur séjour en Arabie Saoudite. Le 2 juin, l'Indonésie et deux autres pays ont lancé la déclaration interrégionale sur l'infodémie dans le contexte du COVID-19, qui a reçu le soutien de 132 pays membres de l'ONU le 10 juin 2020. Les deux autres pays sont l'Afrique du Sud, l'Australie, Chili, Géorgie, l'Inde, Lettonie, Liban, Maurice, Mexique, Norvège, France et Sénégal. dans la déclaration conjointe, il a été déclaré que infodémie, un terme utilisé par le secrétaire général de l'ONU qui fait référence à la propagation de la désinformation, peut être aussi dangereux pour la santé et la sécurité humaine que l'épidémie elle-même. Cette déclaration conjointe appelle toutes les parties à lutter immédiatement contre la propagation de la désinformation et souligne l'importance de l'accès à des informations fiables, factuelles, exactes et fondées sur des données scientifiques. La coopération entre les pays, le système des Nations Unies, les organisations régionales et divers autres parties prenantes, tels que les professionnels, médias, les médias sociaux et ONG, a un rôle important à jouer pour aider à surmonter l'infodémie. Le 22 juin, l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande ont renforcé la solidarité et la collaboration pour se préparer à une nouvelle phase normale dans la région du triangle de croissance Indonésie-Malaisie-Thaïlande lors de la conférence virtuelle sur le thème « Renforcement de la coopération IMTGT sur la pandémie COVID-19 ». La directrice générale du ministère des Affaires étrangères pour l'Asie-Pacifique et l'Afrique, Desra Percaya, a déclaré qu'aucun pays au monde n'était pas assez fort pour affronter seul le COVID-19. La coopération internationale et régionale devient de plus en plus pertinente dans ces circonstances. Les trois pays membres ont des territoires directement frontaliers. Il est donc important de renforcer la coopération dans la gestion de la pandémie COVID-19.
Chers auditeurs, voici le caloscope de Mlevin de la deuxième partie. Nous commençons par les événements qui ont eu lieu en juillet. Le 1er juillet, lors d'une cérémonie de commémoration du 74e anniversaire de Bayangkara, qui s'est déroulée virtuellement depuis le palais d'État, le président Joko Widodo a de nouveau rappelé à la police de prendre des mesures fermes contre les brûleurs de forêt et de terre. Le président a rappelé aux chefs de police régionaux et aux chefs de police de ressort qui se trouvent dans les zones sujettes aux incendies de forêt et de terre, d'anticiper les incendies de forêt et de terre qui se produisent généralement pendant la saison sèche. Plusieurs grades de police régionale et de la police de ressort qui ont participé à la vidéoconférence entre autres venaient de Talaut, Rote, Merauke, Gunung Kidul, Pulang Pisau et Sabang. Le 2 juillet, l'Union européenne a salué la décision de l'Indonésie d'autoriser les débarquements en toute sécurité et de fournir une aide humanitaire à 99 réfugiés Rohingyas bloqués au large de la côte nord d'Aceh. Le sauvetage des réfugiés Rohingyas qui font face à des conditions désastreuses est un hommage au droit international et prouve la générosité du peuple et du gouvernement indonésien. C'est ce qu'a déclaré la porte-parole des affaires étrangères et de la politique de sécurité de l'Union européenne, Nabila Masrali, dans une déclaration écrite. En collaboration avec les autorités indonésiennes, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, UNHCR, et d'autres organisations humanitaires, l'Union européenne mobilisera un soutien humanitaire pour répondre aux besoins fondamentaux les plus urgents des réfugiés. Le 3 juillet, l'Australie a fourni des fonds de 3,6 millions de dollars australiens, soit environ 35 milliards de roupies, pour aider l'Indonésie à faire face à la propagation de la pandémie de COVID-19. Dans une déclaration écrite de l'ambassade d'Australie reçue à Jakarta, cette assistance fait partie de l'engagement de l'Australie à travailler ensemble avec l'Indonésie pour répondre à l'impact de la pandémie de COVID-19. Le 7 juillet, le gouvernement indonésien et indien, par l'intermédiaire de leurs agents professionnels respectifs, tels que l'Agence indonésienne de sécurité maritime et les gardes côte indienne ont signé un protocole d'accord sur la coopération dans le domaine de la sûreté et de la sécurité maritime. On espère également que le mémorandum d'accord permettra d'améliorer les capacités d'interopérabilité des deux pays et d'effectuer conjointement des recherches et des opérations de sauvetage en cas de besoin. Le 9 juillet, le ministre de la Coordination des Affaires politiques, juridiques et de sécurité, Mahfoud MD, a apprécié l'assistance fournie par le gouvernement serbe qui a extradé la fugitive qui s'est introduite par effraction à la banque BNI, Maria Pauline Lumowa, en fuite depuis 17 ans. Par ailleurs, le 10 juillet, la ministre des Affaires étrangères, Ketum Marsudi, a expliqué la libération des citoyens indonésiens condamnés à mort en Arabie Saoudite, Eti Binti Toyib Anwar. Le ministre a déclaré que la libération était passée par un long processus diplomatique jusqu'au niveau du chef de l'État. La diplomatie pour la libération d'Eti a été faite par le président Joko Widodo auprès du roi Salman Abdul Aziz Al Saud ainsi qu'entre les ministres des Affaires étrangères de l'Indonésie et du Royaume d'Arabie Saoudite lors des diverses réunions bilatérales. L'Eti était finalement disposé à donner tanazul ou pardon à Eti à travers un diète au paiement de 4 millions de riyals ou environ 15,2 milliards de rupiah. Eti a été renvoyé chez elle en Indonésie le 6 juillet. Le 11 juillet, le ministre du Commerce, Agus Suparmanto, a déclaré que le gouvernement australien avait augmenté le quota de demande de visa de travail et de vacances pour les citoyens indonésiens à 4 fois la position actuelle. L'augmentation du quota de 1000 personnes à 4100 personnes par an est le résultat de la coopération définie dans l'accord de partenariat économique global Indonésie-Australie, IACPA. Il cible le quota de visa de travail et de vacances pour les citoyens indonésiens du gouvernement australien à atteindre 5000 d'ici la sixième année de mise en œuvre de l'IACPA. Le 15 juillet, l'Union européenne a sorti 35 000 euros, soit environ 573 millions de rupiah pour une aide humanitaire cruciale à 99 immigrants Rohingyas qui ont été secourus et autorisés à débarquer en Indonésie après plus de 120 jours en mer. L'aide est destinée pour de l'eau potable, des installations sanitaires, des soins de santé, un soutien psychosocial ainsi que du matériel essentiel comme des matelas et des couvertures, des articles d'hygiène et des équipements de protection individuelle. Le 20 juillet, le président Joko Widodo a donné des autorités au groupe de travail sur la reprise et la transformation de l'économie nationale et au groupe de travail sur la gestion de COVID-19. La première autorité est de déterminer les décisions qui lient les ministères ou les agences, les gouvernements locaux et les autres agences gouvernementales. La deuxième autorité est de communiquer et de coordonner avec les ministres et les agences concernées et les gouvernements locaux. Le chef du groupe de travail national sur la relance économique et la transformation conformément au règlement présidentiel et le premier vice-ministre chargé des entreprises d'État, Budi Gunadi Sadikin, tandis que le chef du groupe de travail de COVID-19 est le chef de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, Donny Monardo. Les deux groupes de travail font partie du comité pour la gestion de COVID-19 et la reprise économique nationale. Le 24 juillet, le gouvernement australien a remis 100 ventilateurs non invasifs à l'Indonésie dans le cadre de paquets d'équipements médicaux et de laboratoires critiques d'une valeur de 2 millions de dollars australiens ou 19,4 milliards rupiah pour soutenir la réponse et la récupération de COVID-19 en Indonésie. Ces dispositifs médicaux font partie de l'engagement de l'Australie à travailler avec l'Indonésie pour soutenir la rapidité de la réponse sanitaire, l'humanité et la reprise économique en Indonésie. Le 29 juillet, le président Widodo, lors d'une réunion à huis clos sur le thème Projet de posture pour le budget de l'État 2021, qui a été mené virtuellement, a révélé que les prévisions de la Banque mondiale concernant la reprise de l'économie mondiale après la crise due à la pandémie de COVID-19 pourraient remettre en place la reprise économique de l'Indonésie. Au-dessus de la croissance économique mondiale moyenne ou la deuxième plus rapide après la Chine.
Bahkan IMF memperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh 5,4%.
Même le FMI prévoit que l'économie mondiale croîtra de 5,4%. C'est une estimation très élevée à mon avis. La Banque mondiale est de 4,2%. L'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, de 2,8 à 5,2%. Je pense que si la prévision est correcte, nous serons dans une position économique également supérieure à la croissance mondiale et l'Indonésie devrait également faire partie du groupe de la reprise économique la plus rapide après la Chine. Si la projection est correcte, nous devrions être reconnaissants. Le président Widodo est optimiste quant à la croissance de l'économie indonésienne au-dessus de ce chiffre. Néanmoins, le président a rappelé à ses collaborateurs de rester vigilants. Le 30 juillet, le gouvernement d'Indonésie et des Émirats Arabes Unis ont convenu d'arrangements de couloirs de voyage pour faciliter d'importants voyages d'affaires ainsi que des visites officielles et diplomatiques pendant la pandémie de COVID-19. L'accord a été conclu lors de discussions entre la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, et le ministre des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis, Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan. Nous passons maintenant au mois d'août. Le 4 août, le chargé d'affaires pakistanais à intérim à Jakarta, Sajid Khaidir Khan, lors d'une conférence de presse à l'ambassade de Pakistan à Jakarta, a déclaré que les relations bilatérales entre l'Indonésie et le Pakistan s'étaient bien déroulées. Les deux pays se soutiennent mutuellement dans divers domaines lors des forums internationaux et des Nations Unies. Sajid a expliqué qu'à ce jour, l'Indonésie et le Pakistan ont signé 32 textes de protocole d'accord.
Our two countries have 32 MOUs and agreements of different kinds.
Nos deux pays ont 32 MOU et accords d'époque différentes. Nous avons une coopération en matière de défense, nous avons un accord commercial, nous avons signé un groupe coopératif sur le terrorisme, puis formé une commission de travail. Les deux pays ont un dialogue sur la planification des politiques et nous échangeons la délégation, le commercial, les affaires, le commerce, l'investissement et le militaire. En plus de discuter des relations bilatérales entre l'Indonésie et le Pakistan, le chargé d'affaires ad interim du Pakistan à Jakarta a également abordé la question de la paix et de la situation sécuritaire en Asie du Sud, en particulier en ce qui concerne les différends entre le Pakistan et l'Inde dans la région du Jammu et Cachemire. Il espère que le public et les médias indonésiens apporteront leur soutien et montreront un sentiment de solidarité avec le peuple du Jammu et Cachemire. Le 8 août, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, a célébré son 53e anniversaire avec le thème qui se concentre sur le parcours cohérent de l'ASEAN vers la résilience. Un communiqué du secrétariat de l'ASEAN, reçu par Voice of Indonesia à Jakarta, a déclaré que la célébration de la journée de l'ASEAN avait eu lieu en ligne en raison de la pandémie de COVID-19 en cause. Le 13 août, la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, en tant que principal orateur d'un webinaire sur le thème 75 ans de réflexion critique de l'ONU à Jakarta, a déclaré que La pandémie de COVID-19 doit ouvrir les yeux de tous les pays pour prioriser l'unité et faire progresser la collaboration menée par les Nations Unies. Selon la ministre Katno, à 75 ans, l'ONU doit être capable de gérer et de répondre aux demandes mondiales. L'enjeu consiste à soutenir les efforts visant à atténuer les pandémies et les impacts socio-économiques causés par les pandémies.
Dalam jangka pendek, PBB harus mendukung upaya masyarakat internasional.
À court terme, l'ONU doit soutenir les efforts de la communauté internationale pour atténuer la pandémie et ses impacts socio-économiques. Cela comprend l'accès aux médicaments et aux vaccins pour tous. À long terme, l'ONU doit être en mesure d'aider à améliorer la gouvernance mondiale de la santé, notamment en s'efforçant de prévenir de futures pandémies. En outre, Madame Pratnamarsud a également rappelé à l'ONU de pouvoir anticiper les divers défis mondiaux à l'avenir. Elle espère que l'ONU pourra travailler en donnant plus la priorité au développement des pays membres. Le 13 août, l'ambassadeur de l'Union européenne auprès de l'ASEAN, Igor Drisman, a lancé trois nouveaux projets de coopération au développement entre l'Union européenne et l'ASEAN avec un financement total de 13 millions d'euros. Ces projets appuieront l'urbanisation et la gestion durable des forêts ainsi que l'Institut suprême d'audit de l'ASEAN. Lors d'une conférence de presse virtuelle à l'occasion de la journée de la coopération et des bourses ASEAN-Union européenne à Jakarta, Igor Drisman a déclaré que l'Union européenne était un partenaire très important de l'ASEAN dans la coopération au développement. L'Union européenne a apporté son soutien à la région de l'ASEAN en fournissant des fonds de 150 millions d'euros pour des programmes d'intégration régionale de 2014 à 2020. Aujourd'hui, l'Union européenne annonce le démarrage de trois nouveaux programmes de coopération Union européenne-ASEAN.
And I'm very happy to announce today that we are launching another three projects.
Je suis heureux d'annoncer qu'aujourd'hui, nous lançons trois autres projets cette année. Le premier est le programme Smart Green City d'une valeur de 5 millions d'euros qui soutiendra l'urbanisation durable dans plusieurs villes de l'ASEAN et encouragera l'échange de solutions entre les entes océans de l'ASEAN avec l'Union européenne. Deuxièmement, le programme de soutien à la gouvernance forestière de l'ASEAN d'une valeur de 5 millions d'euros qui soutiendra la gouvernance et la gestion durable des forêts dans toute la région et travaillera sur le processus d'autorisation et le commerce durable du bois dans le pays membre de l'ASEAN. Troisièmement, le programme des institutions supérieures d'audit de l'ASEAN, 3 millions d'euros qui augmentera les échanges de renforcement des capacités des plus hautes institutions d'audit de la région et améliorera l'harmonisation et la transparence. L'ambassadeur Igor Drisman espère qu'avec le lancement de ce programme, l'Union européenne et l'ASEAN feront preuve d'un engagement ferme à renforcer les partenariats et la coopération malgré la pandémie de COVID-19. Le 14 août, 161 membres du Conseil ont assisté physiquement à la session annuelle du MPRDPR 2020. Les 174 y ont assisté virtuellement depuis leurs lieux respectifs. Cela a été annoncé par le président de l'Assemblée consultative du peuple indonésien, Bambang Susatyo, lors de l'ouverture de la session au bâtiment Nusantara à Jakarta. Le président Joko Widodo était présent en portant les vêtements traditionnels Sabu de la province de Nusa Tenggara-Est, ainsi que le vice-président Ma'ruf Amin. Dans son discours d'ouverture, le président du MPR a déclaré que la session annuelle du MPR n'était pas seulement un ordre du jour cérémoniel, mais avait également une signification très importante pour les institutions étatiques et devenue un forum pour défendre la souveraineté du peuple, renforcer la communication ainsi qu'un moyen de renforcer la confiance du public à travers des rapports de performance sur la mise en œuvre des pouvoirs et des voies constitutionnelles de chaque institution étatique. Le 17 août, la commémoration du 75e anniversaire de la République d'Indonésie au Palais Merdeka à Jakarta a olio sang pemang ang metang nevka de protocol de santé de la prevention de COVID-19. La sa komunit de communication de la proclamation de l'indépendance de la République d'Indonésie a été diffusée par l'inspecteur de la cérémonie, le président Joko Widodo. Pendant ce temps, le colonel d'infanterie Muhammad Imam Gogur était le commandant de la cérémonie. Le président de l'Assemblée consultative du peuple, Bambang Susatyo, a donné lecture du texte de la proclamation. Le député chargé du protocole de la presse et des médias du secrétariat présidentiel, Bey Mahmoudine, au Palais Merdeka à Jakarta, a déclaré qu'il était sûr qu'avec les protocoles sanitaires, le programme resterait solennel. Des arts et cultures qui se déroulent habituellement dans la cour du palais sont transférés à la télévision ou à l'espace virtuel. Tous les participants à la cérémonie, la troupe hissant le drapeau de l'héritage et tous ceux qui ont pris part à la cérémonie ont suivi le test swab. La diffusion de la cérémonie peut également être vue par tous les citoyens indonésiens qui sont à l'étranger. Le 20 août, les gouvernements de l'Indonésie et de la Chine ont convenu dans un arrangement spécial d'accès au voyage ou dans un arrangement de couloir de voyage essentiel pour les besoins officiels et des affaires importantes entre les deux pays pendant la pandémie de COVID-19. C'est ce qu'a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, lors d'une conférence de presse virtuelle après avoir assisté à une réunion bilatérale avec le gouvernement chinois dans la ville de Sanya, à Hainan. Au cours de la réunion, la délégation indonésienne était représentée par la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, et le ministre des Entreprises publiques en tant que directeur général du Comité pour la gestion de COVID-19 et la reprise économique nationale, Erick Thohir. Pendant ce temps, la délégation chinoise était présidée par le conseiller d'État en tant que ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi. Selon Mme Retno Marsudi, l'accord sur le corridor de voyage avec la Chine est le troisième accord signé par le gouvernement indonésien avec d'autres pays lors de la pandémie de COVID-19 après les Émirats Arabes Unis et la Corée du Sud. Le 24 août, la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que la réalisation du vaccin de COVID-19 à court terme, en particulier pour 2020 et 2021, avait été sécurisé. Cela a été transmis par Retno Marsudi lors d'une conférence de presse après la réunion limitée au bureau présidentiel de Jakarta. Dans cet effort, la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, et le ministre des Entreprises publiques en tant que président exécutif du Comité pour la gestion de COVID-19 et la reprise économique nationale, Erick Thohir, ont effectué des visites en Chine et aux Émirats Arabes Unis. Le ministre a expliqué que le résultat de la visite était que l'Indonésie avait réussi à obtenir un engagement jusqu'à 340 millions de vaccins.
Dari kunjungan kedua negara tersebut, dapat kami sampaikan bahwa untuk tahun 2020,
de visite dans ces deux pays, nous pouvons dire que pour 2020, ce que nous avons sécurisé est un engagement de 20 à 30 millions de vaccins. Pendant ce temps, pour 2021, pour le premier trimestre, les vaccins que nous pouvons sécuriser se situent entre 80 et 130 millions de vaccins. Pendant ce temps, du deuxième au quatrième trimestre, nous avons obtenu de 110 millions. Ainsi, si nous parlons le chiffre pour 2021, les chiffres que nous pouvons obtenir sont de 290 à 340 millions. Retno Marsudi a ajouté que le gouvernement faisait des efforts à court et à long terme pour répondre aux besoins de vaccins de COVID-19. Les efforts à court terme incluent la sécurisation des approvisionnements en vaccins des États Arabes Unis et de la Chine. L'effort à long terme est d'atteindre l'indépendance dans la production de vaccins. Le 27 août, l'Indonésie a reçu l'approbation de financement de 103,8 millions de dollars américains du Fonds vert du climat pour une proposition de REDD+ pour de réduction des émissions due à la déforestation et à la dégradation des forêts, en paiement basé sur les résultats. lors d'une conférence de presse conjointe du ministère de l'Environnement et des Forêts et du ministère indonésien des Finances qui s'est tenue virtuellement jeudi, le ministre de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya, a déclaré que ce financement avait passé la vérification d'une équipe technique indépendante nommé par le secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique.
Bahwa Indonesia telah mendapatkan pengakuan dari komunitas global.
L'Indonésie a été reconnue par la communauté mondiale pour son succès dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant des activités de déforestation et de dégradation des forêts. Cette reconnaissance s'est concrétisée par l'approbation du Fonds vert pour le climat au GCF de débourser des fonds d'une valeur de 103,78 millions de dollars américains pour les paiements de performance connus sous le nom de système de paiement basé sur les résultats du programme RED+, à savoir la réduction des émissions résultant des activités de déforestation et de la dégradation des forêts. C'est la preuve de l'engagement et de la performance de l'Indonésie dans la lutte contre le changement climatique. Siti Nurbaya a ajouté que le succès du gouvernement dans la réduction constante du taux de déforestation était poursuivi à travers un certain nombre de mesures et de politiques. Ces mesures sont la réhabilitation des forêts et des terres, le reboisement, la protection et la sécurité des zones forestières de conservation, la protection et la sécurité des zones forestières, la lutte contre les incendies de forêts et de terres, l'application de la loi, le système de vérification de la légalité du bois et la foresterie sociale. Le 29 août, le Conseil de sécurité des Nations Unies, lors d'une session présidée par le représentant permanent de la République d'Indonésie auprès des Nations Unies à New York, Dian Triansyah Djani, a déclaré qu'il avait approuvé la résolution consensuelle 2538 concernant le personnel féminin dans les missions et maintien de la paix des Nations Unies. Il expliquait que la résolution avait été adoptée le 28 août 2020, hors de New York, et était la première résolution de l'histoire de la diplomatie indonésienne au Conseil de sécurité de l'ONU. La résolution qui a été initiée par l'Indonésie est parrainée par 97 pays de l'ONU, y compris tous les membres du Conseil de sécurité de l'ONU. La ratification est considérée comme une pièce importante car c'est la première fois que le Conseil de sécurité de l'ONU adopte une résolution qui traite spécifiquement du rôle des femmes soldats de la paix dans le monde.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.